7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul, tu le sens-tu? Tu le sens-tu l'excitation?
Ouais, mais, oui, mais je voulais te poser une question fort simple pour amorcer la chronique. Devant autant de dépenses annoncées, c'est quoi ton sentiment? Es-tu mal à l'aise? Avons-nous vraiment besoin de tous ces programmes?
Paul, je me sens comme quelqu'un qui est à la veille d'aller voter, hein? Un sentiment électoral, ça sent les élections. D'ailleurs, parlant d'élections, on commence avec les chaussures, Paul. Plus léger un peu, il a acheté des chaussures chez Aldo en ligne. Moi, personnellement, comme bon gestionnaire, j'aurais été chez le cordonnier, montrer que mes vieux souliers sont encore bons. Bon, premièrement, mais parlons du contenu. C'est toujours drôle que le contenu du budget sorte avant. Tu sais, c'est quand même des orientations stratégiques gouvernementales qui ont des influences sur des particuliers, des entreprises et qui influencent des décisions stratégiques. Alors, comment se fait-il qu'il y a du coulage de l'information?
Ça, il y a plus que du coulage. Il y a des annonces officielles que normalement tu retrouves dans un budget, mais que, tu sais, exemple, là, pour les enfants qui viennent de milieux défavorisés, le fait d'avoir accès aux garderies et tout ça, là, c'est le gouvernement qui l'a annoncé.
Tu sais, il y avait Albertine en 5 temps avant, là, t'as le budget en 5 temps.
Exact, exact. Mais c'est ça.
Ah oui, regarde, t'as eu la semaine passée, on y va marketing, on annonce le fonds des générations en premier pour dire, regardez ça, là, on s'occupe de la dette. Donc, on occupe les médias pendant une semaine. Après ça, on le fait maintenant, on l'occupe pendant une deuxième semaine. C'est comme manger une fondue du budget. Au lieu de te mettre ton assiette d'en face, on donne un petit morceau par petit morceau. Veux-tu une petite crevette du financement? Veux-tu un petit pain de l'investissement? Mais parlons des mesures. La ligne bleue, premièrement, Paul, oui, c'est une promesse qui va frapper l'imaginaire de dire, on va s'en occuper, ça veut pas dire qu'on va le faire. Mais c'est quand même une ligne qui n'est pas optimale. C'est une ligne quand même avec un transfert complexe qui mène pas au centre-ville, mais qui va desservir Anjou. Ça va être populaire électoralement, effectivement. Moi, c'est les dépenses pour la formation de la main-d'œuvre. On dit qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Oui, c'est vrai qu'il y a une mauvaise allocation de la main-d'œuvre des fois. Mais est-ce qu'un programme est payant politiquement ou va vraiment avoir un impact? C'est-à-dire, si tu mets de l'argent pour former la main-d'œuvre, est-ce que ça fait en sorte que la main-d'œuvre veut vraiment être formée dans ce domaine-là? Et est-ce que ça fait en sorte que tu as de la main-d'œuvre disponible? Parce que là, le taux de chômage étant faible, est-ce que ce qui reste comme main-d'œuvre disponible au futur, c'est vraiment orienté vers les programmes où on en a besoin? Et est-ce que le futur n'est pas la science? Parce que ça, c'est l'autre question. C'est que si on veut former de la main-d'œuvre pour tout de suite, faut pas oublier que les emplois de demain, ce ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc, ce qui va disparaître, est-ce que c'est ça qu'on veut former?
Mais tu sais, je vais donner un exemple qu'on me racontait en fin de semaine. C'est un ami qui me racontait ça, qui, bon, une entreprise qui recrute dans le domaine informatique trouve un programmeur, un jeune, quelqu'un qui a du talent, puis qui correspond parfaitement aux critères. Il l'embauche. Après quelques semaines seulement, le gars démissionne parce qu'un compétiteur vient lui offrir pour le même travail, les mêmes conditions, 30 000 de plus par année.
Paul, il est débauché. Pourquoi? Regarde ce qu'on valorise à la télévision. Chanter. Danser. Cuisiner. As-tu déjà vu un gars en science à TV à part à génial là, être valorisé? T'sais? Donc, tous les emplois du futur, Paul, ne sont pas très valorisés dans la société. La science, la programmation, ce qui va être l'avant de demain, ce qui va nous donner de l'argent, ben on ne le valorise pas. Et ça influence les décisions. Donc, peut-être ça aussi, il y aura un incitatif. Les aînés travaillent plus longtemps, Paul. Quand tu continues à travailler quand tu es aîné, il y a souvent deux raisons. Tu as besoin d'argent ou tu as besoin de rester actif. Mais est-ce que le fait de réduire ta fiscalité va changer beaucoup de comportements ou le coût-bénéfice ne sera pas au rendez-vous? C'est à voir, c'est toujours une question qu'on se pose. Immigrants et handicapés, effectivement, à lutter contre la discrimination, la non-allocation de diplômes versus le travail. Bon, les baisses d'impôts, Paul, on s'entendait à pas avoir de baisse d'impôts. Oui, les employeurs ont beaucoup de charges sociales cette année, on va leur enlever le FSS ou le réduire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, dans le fond, que on va avoir les mêmes problèmes qu'après. Les gens vont pas les mêmes problèmes, mais les mêmes discussions. On va encore dire qu'on est le plus taxé. On va encore dire qu'il n'y en a pas assez pour les entreprises. On va encore dire qu'il n'y en a pas pour lutter pour les inégalités, pour les paradis fiscaux. Donc, on peut déjà préparer les clips des partis de l'opposition et des groupes de pression, Paul.
Imagine une petite récession, mettons, ou un ralentissement économique dans, je sais pas, moi, 2 ans, là. Qu'est-ce que tu coupes?
Bonne question.
Non, mais tu viens d'annoncer un paquet d'affaires qui n'existait pas avant.
Tu augmentes des impôts, Paul.
Ouais, là,
c'est une blague. On en a assez, là. 53,31%, c'est trop. On arrête ça.
Un petit mot sur Spotify en terminant, le géant de la musique.
Oui, parce qu'il y a un signal de prix. On veut aller en bourse. Mais là, on dit aux consommateurs depuis des années, la musique, ça vaut rien ou ça vaut 10$ par mois. Donc, le consommateur a mis ça dans son cerveau. On lui a envoyé un signal de prix. Là, on nous dit que Spotify fait pas d'argent, qu'on va aller en bourse, que la croissance ralentit. Ça envoie un signal que, dans le fond, l'actionnaire peut être potentiellement celui qui va financer le passé de Spotify, mais est-ce que le potentiel est là? Le consommateur, à force de lui dire dans le cerveau, la musique est gratuite sur Napster à l'époque, sur Kazaa, après ça, t'as Apple Music, tu peux aller sur iTunes un peu moins cher, et là, maintenant, 10$ par mois, t'as toute la musique. Il n'y a aucun consommateur Economicus qui peut se dire, au moins Economicus qui peut se dire, acheter un CD, ça vaut encore la peine. Et c'est ça le problème. Donc, où est allé l'argent, finalement, de la musique? Elle est allée où? Dans les fournisseurs Internet, Paul. Et chaque fois que je dis ça à la radio, j'ai un appel de Vidéotron, dans le blague, mais tu comprends? Le fournisseur, lui, est allé chercher la captation de valeur parce que les personnes, oui, paient seulement 10$ par mois pour leur musique. Mais où est-ce qu'on va payer? On va payer dans l'accès Internet pour augmenter notre download, notre upload. Et c'est là que l'argent est rendu, Paul, et non plus dans la musique.
J'arrête la chronique, je te laisse répondre au téléphone et je te souhaite une bonne journée. Puis on va regarder le budget ensemble demain. Il est 7h23.